Ouais, j'ai pressé. Mais c'est peut-être le micro qui n'est pas assez proche. Hein, c'est ça? Hein? C'est bon? Ok. Ouais, au milieu de ma famille, avec un cœur extrêmement reconnaissant à Dieu. Alors, vous ne faites pas de soucis, je vais avoir des larmes. Parce que Dieu est très fort dans ma vie, a été très très fort, et j'aimerais vous encourager, d'où que vous venez, qui que vous soyez. J'ai un cœur particulier pour les jeunes qui sont à la porte de leur vie, qui sont à la porte de tout ce qui peut leur arriver dans les prochaines 20 années, si le Seigneur n'est pas encore revenu. Et je vais simplement témoigner. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là avec Alain Pilecki, des 4 étapes qu'Élisée a fait avec Élie. Est-ce que vous vous souvenez? Qui était là la semaine passée? Alors, pour résumer, on peut dire l'esprit, personne ne peut venir au Seigneur Jésus-Christ si ce n'est l'esprit du Père qui ne l'attire. Et quand l'esprit du Père attire quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ, il le sort du pays d'esclavage. Et Alain disait, ils ont vécu tellement de temps d'esclavage, le peuple d'Israël, ça a duré tellement longtemps qu'ils ne savaient même plus qui était Dieu. Tout a été faussé complètement dans leur vie. Et en fait, par le rachat du Seigneur Jésus-Christ, ils sont allés à Gilgal, ils sont sortis du pays de leur esclavage, de l'Égypte, et à Gilgal, où il est dit que leur honte a été roulée, le Seigneur a roulé la honte. Il a parlé du baptême, où le Seigneur roule la honte qu'il y a sur nos vies, qu'il peut avoir sur nos vies. Et puis ensuite, on peut dire que Élie était transporté par le Seigneur d'un endroit à un autre. Donc on va dire, l'Esprit du Seigneur a amené de Gilgal, des eaux du baptême, à Bethel, l'endroit où on a ramé, on a tout fait ce qu'on pouvait, on arrive au bout de nos forces, on n'en peut plus. Et puis, c'est l'endroit de la rencontre avec le Seigneur, Bethel. Et là, les grandes révélations de l'amour de Dieu, là, les attouchements, vraiment, le Seigneur touche les cœurs et les esprits fortement. Et c'est le temps de se lever. Et l'Esprit du Seigneur conduit, a conduit Élie et Élisée du côté de... C'était Marie-Jo qui a dit Jéricho. Jéricho, où c'est le temps d'entrer dans le pays promis. Mais voilà que toute la troupe se trouve devant une grande muraille, les grandes murailles de Jéricho, qui semble et qui est humainement impossible à prendre. Et de l'autre côté se trouve le pays promis. Et on arrive là, dans nos vies, et c'est là qu'on a besoin de la révélation de la seigneurie de Dieu. Pour qui es-tu? Demande-t-il à l'ange qui se tient avec cette épée, et puis qui dit, mais qui es-tu? Et Josué lui pose cette question, t'es pour nous ou t'es contre nous? Non, répond l'ange de l'Éternel, mais je suis le chef de l'armée de Dieu. Et là, Josué a cette révélation où il se prosterne, il s'allonge et dit, Seigneur, dis à ton serviteur ce qu'il faut qu'il fasse. C'est plus avec nos propres forces, notre propre vécu, avec les expériences du Seigneur, c'est une prise de conscience que oui, Dieu est celui qui mène les choses jusqu'au bout. Et l'ange du Seigneur lui dit, retire tes souliers, parce que cet endroit sur lequel tu te tiens est un endroit saint. L'ange du Seigneur lui souligne que oui, bien, c'est vraiment Dieu qui mène le combat de nos vies. Puis passé Jéricho, voilà où ils vont. Pour qui se souvient de la dernière étape? Le Jourdain. Le Jourdain, c'est quand Élie frappe avec son manteau le fleuve et le traverse à sec, comme avec la mer Rouge. Et c'est là que se déverse la puissance et l'onction du Seigneur. Et c'est là que Élie et Élisée, par la suite avec la double onction, commencent à libérer au travers d'eux, vient comme le fleuve du Seigneur, libérer les miracles, libérer la connaissance de qui est Dieu réellement. Et l'homme est vraiment rempli de l'Esprit et agit vraiment en être transformé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais vous lire ce psaume avant de commencer pour mon témoignage. Et je vais le lire comme une prière de reconnaissance et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Mon âme loue l'Éternel, c'est le 146. Hein. Je louerai l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas, dont des principaux, dans un fils d'homme, en qui il n'y a pas de salut. Son esprit sort, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré. Le jour où on meurt, l'esprit retourne à celui qui l'a donné, le corps va à la terre, et tous les desseins périssent. Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel son Dieu, qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui garde la vérité à toujours, qui exécute le jugement en faveur des opprimés, qui donne le pain à ceux qui ont faim. L'Éternel met en liberté les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel relève ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers, il affermit l'orphelin et la veuve. Il affermit l'orphelin et la veuve et confond la voix des méchants. L'Éternel régnera toujours, ton Dieu au Sion, de génération en génération, louez-le. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire et qui ne connaissent pas mon nom, il y a quelques-uns quand même. Donc je m'appelle Leïla et je suis née en Tunisie. Je suis née en Tunisie dans des circonstances très difficiles. Et j'ai été abandonnée tout de suite et j'étais dans un foyer, un orphelinat, dans lequel une personne m'a témoigné, parce qu'elle a été les visiter, que quand Edmond Kayser est intervenu dans ce foyer à Bouchoucha, les enfants, les bébés étaient attachés sur les tables et puis on leur donnait juste ce qu'il fallait, mais ils se laissaient mourir ou ils tournaient en folie. Des bébés tournaient en folie parce qu'il n'y avait pas d'affection. C'était le manque et la séparation avec la maman, c'était juste quelque chose qui était innommable. Quand on regarde le film « Le bébé est une personne », on voit qu'en fait, la lumière d'amour qu'il y a entre la maman et le bébé s'éteint. La connexion qu'il y a dans le cerveau, ici, qui, vraiment, il y a des connexions. Le Seigneur a fait des choses impressionnantes dans un cerveau où quand un papa et une maman regardent leurs enfants, il y a la zone de plaisir qui s'allume. Le plaisir d'exister, le plaisir d'être vivant, le plaisir, le bien-être, la joie, les projets, ça s'éteint. Dire que le bébé, en tant que bébé, on peut vivre des souffrances qui vont au-delà de nos forces. Des souffrances qui vont tellement loin par rapport au fait de ne plus avoir sa maman, de ne plus avoir son papa, après j'étais déracinée de mon propre pays, que ça s'éteint. Et après, a permis en tout cas, j'ai été dans des familles d'accueil dont la première était alcoolique et le service de protection de la jeunesse a dû me sortir de là parce qu'il y avait des abus qui ont été faits sur moi. J'étais entre 0 et 3 ans. Donc, Terre des Hommes a eu la peine à me le dire, mais c'est noté dans leur papier. Et je suis arrivée dans la deuxième famille d'accueil où là, il y avait vraiment des tensions entre le couple et la maman étant juive. Elle avait de la peine avec les gens qui venaient des pays arabes comme moi. Et moi, de la peine avec ce qui s'appelait la maman. Évidemment, hein, la souffrance est trop grande. Alors j'arrive dans cette famille d'accueil, mais le papa, je me suis bien sentie aimée de lui. Il était fier, il avait le nez qui était droit comme ça, il était tout content. Puis chaque fois qu'il rentrait, il me cherchait. Et ça, c'était la première fois où je me suis réellement sentie aimée de quelqu'un. Ça a duré 3 ans et demi, puis je suis allée dans une dernière famille d'accueil. Et la dernière famille d'accueil était elle-même pétrie dans la honte, c'est-à-dire qu'ils avaient vécu des choses difficiles eux-mêmes dans leur enfance. Ils ont voulu vraiment m'accueillir, mais comme ils n'étaient pas guéris de leur passé et amers de leur passé, leur amertume s'est focalisée sur moi, et moi, mon rejet, je leur ai donné mon rejet en retour. Je me suis, voilà. Mais à l'âge de 8 ans, comme j'étais dans l'église réformée, à l'école du dimanche, on m'avait parlé du Seigneur Jésus, et je me suis dit, si Jésus existe vraiment, s'il est comme il est, alors j'ai une raison de vivre. Et je me rappelle qu'on m'avait dit qu'il était ressuscité. Alors je me suis dit, s'il est ressuscité, je vais lui parler directement. C'est tout simple en fait. Hein. Donc le soir, dans mon lit, j'ai dit au Seigneur, mais fais-moi une lumière orange. J'avais un petit peu peur de le voir apparaître, on ne sait jamais comment. Mais toujours est-il que ma chambre s'est éclairée en orange. Et j'ai vraiment vu mes meubles, ma table, mon lit. J'ai vu vraiment... ma chambre s'est éclairée en orange. Et j'étais dans mon lit, j'étais un peu l'incrédulité au milieu du miracle. Et ma maman a ouvert la porte, a cherché un bocal de confiture, elle l'est coincée dans ma chambre, elle sortait un bocal de confiture, fermé la lumière, fermé la porte, et plus de lumière orange. Mais ça a été mon premier rendez-vous avec le Seigneur. Et après, je me suis répandue tous les soirs devant le Seigneur par rapport à la famille dans laquelle j'étais. Comme je faisais beaucoup de bêtises, le seul truc qu'ils avaient trouvé, c'était de me garder enfermée. C'est-à-dire que si j'allais jouer dans le quartier, c'était sûr qu'il y avait des problèmes. Si j'étais à l'école, puisque de toute façon, je ne méritais pas l'amour, alors je piquais les bonbons, les chocolats, l'argent. Après tout, il fallait s'approprier, puisque de toute façon, il n'y avait pas droit. Et puis... Donc, ma maman avait trouvé le seul moyen, c'était de me garder enfermée. Donc, je sortais quand elle me disait, je rentrais quand elle me disait. Et j'avais mon ami d'enfance qui est encore mon meilleur ami depuis 43 ans. Ça, c'est l'ange du Seigneur qui l'a placé. Il amenait tous les copains du quartier devant chez moi. Comme ça, ma maman m'avait à l'œil. Et puis, du coup, tous les gamins du quartier aussi. Et puis, comme ça, j'ai pu passer une enfance où j'ai quand même pu être avec mes amis du quartier. Toujours est-il que dans cette famille d'accueil, il y avait une sœur que dont je me sentais réellement aimée aussi et que j'ai aimée en retour. Et une autre sœur dont j'ai senti aussi cet amour, et parce que je me suis sentie aimée d'elle, j'ai arrêté de voler, j'ai arrêté de mentir, pas encore, enfin, j'ai trop peur de ma mère, mais voler en tout cas. Et malheureusement, quand j'ai eu 14 ans, elle avait 18 ans, elle s'est suicidée, s'est jetée sous un train. Et j'ai mis 25 ans à récupérer. C'était juste un rappel que j'avais perdu ma maman. Je vous dis pas ça pour que vous me plaigniez, hein, vraiment pas. Si je vous explique la souffrance et la profondeur qu'on peut vivre quand on doit être au milieu d'une population, devoir s'en sortir, finalement être dans des familles d'accueil qui ne nous donnent jamais leur nom, on peut jamais être adopté réellement. Est-ce que Dieu peut en faire ? C'est vraiment ça. Et je ne peux pas parler de cette profondeur de souffrance, je ne peux pas parler aussi de la gloire de Dieu, ça va ensemble en fait. Alors le Seigneur m'a donné quand même quelque chose d'assez chouette, c'est qu'il m'a quand même donné beaucoup de joie, malgré tout. C'est vrai que le sens de la communauté, le sens de rassembler les gens, il m'a donné des amitiés profondes, dont Romana, qui est une de ma meilleure amie depuis des années. Et aussi, ça m'a aidée. Et aussi, j'ai été dans une église africaine où eux, ils vivaient à fond dans la présence du Saint-Esprit. Donc, j'ai appris à vivre par la force de l'Esprit, mais mon âme était en décalage. Alors, quand j'étais dans l'Esprit, tout allait bien. J'étais souriante, j'étais radieuse, j'étais illuminée, mais pas dans le mauvais sens. Mais mon âme... elle était toujours en train de rouspéter. Quand Rija nous exhorta à dire « Béni Dieu, mon âme, elle rouspétait après Dieu. Mon âme, elle ne pouvait pas concevoir que Dieu était amour avec tout ce que j'avais vécu. Mon âme, elle ne voulait pas. Mon âme, non, non, non. » Alors, je vais vous dire, on a une mentalité, nous qui avons été abandonnés par nos parents, quelle que soit la raison, là où la zone de plaisir s'est éteinte. Là où on n'a plus la joie de vivre, là où on s'efforce d'être au milieu des gens, de temps en temps, la lumière s'allume dans les relations, quand il y a des pères et des mères spirituels qui nous entourent, mais elle se réteint tellement vite, parce que le fond, on ne peut pas l'oublier. Et même Dieu ne pouvait pas être ma maman, et même Dieu ne pouvait pas être mon papa. Vous savez, les gens qui ont souffert trop longtemps, trop profondément, il y a comme quelque chose qui ne peut plus. Alors, l'esprit les aide, mais la lutte est grande. Et je me sentais, avec cette mentalité, j'avais une mentalité qui était une mentalité d'orpheline, de mendiante, de bâtarde, avec toutes les réactions que cette identité nous donne. C'est-à-dire, on fait tout pour plaire, on se courbe devant les hommes, on a peur des autorités, parce qu'évidemment, quand on était tout tranquille et tout confiant, c'est là qu'on était abusé, donc on est en hypervigilance, est-ce que oui, est-ce que non, en hyperréaction, on joue avec les relations, je m'approche, je fous le camp, je vais jusqu'à un certain point, même la présence du Seigneur, quand elle venait très fort sur moi, il fallait que je me retourne, je ne pouvais pas rester. Et voilà que le Seigneur me place dans cette fameuse maison des bulles. La maison des bulles, c'était la suite de Jeunesse en mission, où j'avais fait 4 ans de formation dans un contexte social pour accueillir des personnes qui étaient en rupture aussi, et puis survivantes d'abus. Et à la suite de ça, le Seigneur m'a dit, je vais te donner une maison. Est-ce que tu as reçu dans ton cœur, tu le sèmes dans ta région. Alors, forte de tout ce que j'avais appris, quand même bien rempli, tout, j'ai commencé. Première année, magnifique. Deuxième année, ça commençait à chanceler. La troisième, ça descend. La quatrième, ça commence à devenir la catastrophe. La cinquième, c'est proche de la catastrophe. La sixième, c'est la catastrophe. Quand j'arrive à la catastrophe, j'arrive du côté de Bethel. C'est-à-dire que je me réponds devant Dieu et que je dis, comment fonctionne un cerveau? Il y a plus de 10 milliards de connexions dans un cerveau humain. Ce qui fait la différence entre les animaux et nous, c'est qu'on a vraiment 10 milliards de connexions. Et il y a des connexions pour le plaisir de l'imagination, la créativité. Il y a des connexions énormes. Et bien, le Seigneur a rallumé ces connexions. Ça s'est passé sur 2-3 semaines, j'ai senti que j'avais rien besoin de faire. Et à l'intérieur de moi, a commencé à monter des paramètres nouveaux. Il fallait toujours que je me rappelle que j'étais aimée de Dieu. Il fallait que je me le rappelle, mais il y a eu un tellement long désert que chaque fois que je le disais, Dieu, je suis contente, ça me fait encore la même chose. Je suis tellement contente que tu m'aimes, ça me fait tellement du bien, j'ai tellement vécu le rejet et le premier de ma maman et de mon papa. C'est ce qui me touchera le plus toute ma vie, c'est d'être aimée par toi. Et à cause de ça, Seigneur, je veux arriver devant cet endroit où je dis, mon Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux entrer dans ce Jourdain. Je veux entrer vraiment dans cette promesse et voir l'amour du Seigneur vraiment être déployé au travers de ma vie sur les gens. Changement de mentalité, les fruits de ma guérison, c'est que ça fait 29 ans que je fais du pain artisanal, pour donner un exemple concret. Et j'ai pu faire que les marchés et les foires, parce que à cause de ma mentalité d'orpheline, j'étais incapable de m'engager vraiment. Je m'engageais et je disparaissais. J'étais là, mais je n'étais pas là. J'étais avec, mais je n'étais pas réellement dedans. Donc beaucoup de situations, donc je ne vais pas dire dans beaucoup, dans toutes les situations. Par peur qu'une fois que je suis vraiment connue, je sois de nouveau rejetée. Alors, avec la mentalité d'orpheline, je ne voulais pas trop me faire connaître. Mais là, j'ai senti en moi que ça y est, le temps était prêt, la saison était mûre pour que je fasse connaître mon pain et l'atelier Bethléem et que je le développe. Et que je commence à mettre dans des cafés, dans des restaurants et que je commence à être connue. Ce qui, avant, me faisait transpirer. Rien que savoir que mon nom était dans le journal, j'avais déjà les sueurs qui me montaient dans le dos. L'esprit de persécution était aussi là. Et puis, avec ça, le Seigneur m'a appuyé en me donnant le privilège d'avoir un boulanger-pâtissier-confiseur qui vient à 20-25% et qui, lui, est chevalier du bon pain, mais sans être dans la franc-maçonnerie, mais chevalier du bon pain, et qui a été maître d'apprentissage et expert dans toutes les boulangeries. Qui a 3 ans de la retraite et qui m'aide à structurer vraiment avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de cœur, sans jugement, m'aide vraiment à développer de manière beaucoup plus structurelle ce que j'avais avant. Et en moi, un désir de clarté, un désir que les choses soient claires, un désir que les choses soient bien faites, un désir que les gens se sentent bien, un désir de justice. Mais en même temps, avec tout le vieux, les vieilles habitudes qui sont encore un petit peu là, mais que ma nouvelle nature peut de moins en moins supporter. Donc ça se règle au fur et à mesure de la marche. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vraiment le cas de le dire. Une des autres choses, et c'est vrai que mes jeunes qui travaillent avec le boulanger, qui travaillent dans l'atelier Bethléem, commencent à avoir un plaisir au contact du boulanger, au contact... ils avaient déjà un immense plaisir avec Yves, quand Yves m'a accompagnée pendant 15 à 18 ans, c'était pas rien non plus. Il y a un immense plaisir. La deuxième chose, c'est que quand je me trouve dans un groupe, je me sens faire partie. Dieu est devenu ma famille. Ça veut dire que parce que je me sens en famille avec Dieu, il me le fait sentir, je le vis, je me sens connectée avec la famille de Dieu. Avant, oui, j'avais une famille, mais... la vraie, la mienne. elle était où? Et puis qui pourrait aimer comme une maman aime sa fille ou un papa aime son fils dans l'église? Dieu le fait. Alors je peux être connectée avec les autres. Dans toutes mes relations, et je deviens beaucoup plus vraie, donc c'est aussi, quand je m'insurge, je dis. Avant, j'étais incapable, j'avais peur. Quand je suis contente, je le dis. Je sais pas, il y a plus de transparence, c'est plus vrai qu'avant. Quand je reçois des coups de poignard dans le dos ou dans le cœur, avant, je disais, Seigneur, que ta justice soit faite, que la personne sache ce qu'elle a fait, qu'elle sache qui tu es, qu'elle comprenne ta sainteté, et puis qu'elle vienne me pardonner à plat ventre du péché horrible qu'elle m'a commis, qu'elle a commis contre moi, moi qui suis pure, qui n'ai jamais rien fait. Tandis que maintenant, je reçois le coup, des fois je pleure, mais je choisis de pardonner tellement plus vite, mais aussi je choisis de bénir, je prie pour qu'elle entre dans la même révélation que j'ai reçue. Je sais que c'est impossible. Aucune parole, même pas mon témoignage, peut changer le cœur d'une personne, il peut l'encourager, mais c'est que l'Esprit de Dieu qui peut prendre ce témoignage et toucher les cœurs des gens. Je voudrais juste voir pour le 2 Chroniques, pour terminer, la prière de Jabez. Vous savez, il y a quelque chose d'un peu tordu, enfin que je trouve un peu tordu, peut-être que chacun le lit différemment, dans cette prière. C'est Jabez fut le plus honoré que ses frères, sa mère l'avait appelé Jabez en disant « c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Donc Jabez doit porter le nom de « enfanté dans la douleur ». Souffrance, 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 viens manger. Souffrance, va là-bas. Souffrance, ça va souffrance. C'est ça, hein? Et alors, à un moment donné, il prie, il fait appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Agrandir mon territoire. Quand on a une identité qui s'appelle souffrance, comment voulez-vous agrandir votre territoire ? Hein? Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Son identité de souffrance, il a demandé qu'elle soit changée. Vous savez, une maman qui appelle son fils souffrance, à qui revient la gloire? Même si on dit qu'il est honoré plus que les autres, il est honoré pour la gloire de la maman. « Ah, j'ai souffert pour t'avoir !»« Merci !» Et tous les jours, avec son nom, il se rappelle de ça. Eh bien, pour moi, aussi, je portais ce même nom. Si je pleure, c'est parce que j'ai été tellement profondément touchée là où j'avais besoin d'être rencontrée. Si je suis émue en vous parlant, c'est parce que Dieu est profondément doux, compatissant et fort. On n'est pas obligé de rester dans l'esclavage. On n'est pas obligé de rester derrière nos murs, mais on peut demander au Seigneur, j'ai répondu à mes souffrances de la même manière que j'ai reçu les souffrances. Les coups, je les ai donnés comme je les ai reçus. Je ne suis pas qu'une victime, mais je suis aussi quelqu'un qui a fait du tort. Seigneur, viens me sortir de là, change ma mentalité. Vous savez, quand le Seigneur touche les cœurs, il y a une conviction, sans appel. Sans appel. Je vis ma vie de foi de tous les jours sans faire des grands, grands efforts. J'ai plus besoin, ça va, je me sens aimée. Par contre, quand je parle du Seigneur, quand je témoigne, quand j'écoute, quand je partage, je suis convaincue. Et je suis aussi convaincue que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans ma vie, le terminera et m'amènera de l'autre côté des murs de Jéricho qu'il a déjà abattus et j'irai dans ce Jourdain. Et je serai remplie par l'Esprit du Seigneur. Mais vous voyez, dans ces temps-là, si vous souffrez pour le Seigneur, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous avez la nature divine du Seigneur qui est alignée en vous pour répondre avec l'amour. Voilà mon témoignage. Merci de m'avoir entendu. C'est fini? Merci. En tout cas, j'aimerais encourager ceux qui vont entrer dans le baptême. Allez-y. Allez-y, vous allez du côté du plus fort, du plus doux, du plus humble des hommes. vous n'avez aucun souci, vous n'avez avoir à peur de rien. Le meilleur vous attend. Et le Seigneur, comme consécration, est entré, a ouvert le chemin dans ce baptême aussi, pour qu'on entre derrière lui. Et on a un Dieu qui dépasse l'entendement. Alors, j'ai juste prié pour les personnes. Papa, infiniment, je te remercie pour le Dieu que tu... pour le Père, le Papa que tu es pour moi depuis que j'étais dans le sein de ma maman. Toi qui m'as tissé dans le sein de ma maman, tes yeux étaient sur moi. Ton cœur était sur moi. Et toi qui as donné ton cœur maternel à toutes les mamans pour leurs enfants, à combien plus forte raison. Tu ne peux pas combler les besoins d'un orphelin ou quelqu'un qui se sent encore, même à 50 ans, orphelin. Et Père, moi je te demande, je te prie pour toutes les personnes qui sont à l'intérieur d'elles, que oui, il y a une mentalité qui les empêche d'entrer dans la révélation des fils de l'homme, de connaître la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur, la largeur, la longueur. J'aimerais vraiment dire aujourd'hui, si vous désirez vraiment que le Seigneur change votre mentalité, même si vous comprenez un peu, mais pas tout, ben, j'aimerais vous inviter à simplement vous lever, pouvoir aussi s'avancer. Et puis j'aimerais vraiment prier pour chacune des personnes. Courtement, mais vraiment j'aimerais prier.